Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'interviewer Madame Nadine Fein Timberville, une enfant juive recueillie à l'âge de 10 ans par Marthe Guillaume, une ancienne pharmacienne de la Tour d'Auvergne. Cela s'est passé pendant les vacances de Pâques en 1943, alors qu'elle était en pensionnat sur Clermont-Ferrand. Maintenant, Madame Timberville, pouvez-vous nous raconter comment Marthe Guillaume vous a caché des Allemands pendant cette terrible période ?
On vivait chez elle et on allait se promener dehors. On n'était absolument pas emprisonnés. On était simplement incognito, c'est-à-dire que personne ne savait qui on était. On n'était pas cachés. Hein. On était cachés. Après, on dit qu'on est caché. Mais sur le coup, on ne dit pas qu'on est caché. On dit qu'on est en visite chez une cousine, chez une tante, enfin voilà. Personne n'a posé de questions, personne n'a dit, tiens, pourquoi vous avez des petites filles chez vous ? Bien, non. Ça s'est passé comme ça, très simplement. Les Tourets étaient gentils.
Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire ?
Marthe nous laissait faire tout ce qu'on voulait. On a été libres comme l'air, on faisait vraiment ce qu'on avait envie de faire sur le moment. On se levait à l'heure qu'on voulait, on prenait le petit déjeuner, on allait se promener. Le soir, c'était pareil, on dînait avec elle. Et elle recevait ses amis le soir, pardon. Elle recevait ses amis le soir. Et ben nous, on lisait dans la bibliothèque, on attendait qu'il fasse un petit peu plus tard, enfin qu'il soit... que le soir arrive pour aller se coucher, mais sinon dans la journée on allait se promener, on ramassait des jonquilles, je raconte ça à tout le monde parce que ça m'a beaucoup marqué. On ramassait des bouquets de jonquilles qu'on lui offrait en arrivant le soir, mais sinon on était absolument libre et on ne faisait rien de spécial, on était en vacances. Pour nous ça a été vraiment des vacances. Voilà. Alors je racontais, si ça peut vous amuser, qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de beurre, tout ça, parce que les Allemands réquisitionnaient tout. Alors, il fallait bien quand même qu'on goûte. Alors, on avait du pain, et on allait chercher chez l'épicier du coin, dans des grands tonneaux, il y avait des cornichons. Et elle nous servait les cornichons à point, dans des louchers, et on mettait ça dans notre pain, et c'était notre goûter de 4 heures. On mangeait des pains aux cornichons.
Quel était votre quotidien à cette époque ?
Les cornichons, les jonquilles, les promenades, la neige aussi, on a eu de la neige. Et je raconte aussi que ma sœur qui était tellement contente d'être dehors, de pouvoir courir partout. Moi j'étais plus calme, donc je me promenais, j'étais contente, mais elle alors, elle était tellement heureuse. Alors elle voulait aller dans les champs, enfin, on était sur la route, on marchait, il n'y avait pas de voiture, comme je le disais, à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc on peut marcher n'importe où. Donc on marchait sur la chaussée. Et puis elle a voulu aller sur le champ à côté, alors elle a traversé, mais il y avait un fossé. Et le fossé, il était plein de neige, elle ne le voyait pas. Donc elle s'est enfoncée jusqu'à toute la jambe dans le fossé. Et puis voilà, c'est des souvenirs qu'on garde, qui sont amusants, mais sur le moment, elle n'était pas très contente quand même. Hein.
Est-ce que vous avez dû changer de nom pour vous dire ?
On a la chance, nous, d'avoir un nom qui se francise très facilement. On s'appelait Fein, F-A-I, avec un petit tréma au-dessus, puis N. Pouf, on a supprimé le tréma, et on est devenu Fein. En plus de ça, c'est un nom qui est courant dans les Landes, donc ça passait très bien. Et puis nous, moi ça ne me gênait pas, mais comme je raconte dans le film, je crois, ma sœur, elle n'arrivait pas à se faire appeler Fein, Et donc, quand elle était en classe et que le professeur lui disait mademoiselle, parce qu'on disait mademoiselle à l'époque, mademoiselle Fein allait au tableau, bah elle restait là, tranquille, elle ne bougeait pas. Et alors, c'était sa copine qui faisait « Eh, tu te demandes d'aller au tableau ?» Parce qu'elle ne réagissait pas à ce nom. Moi, ça ne m'a pas posé de problème. Moi, je n'étais pas une fille à problème.
Est-ce que des membres de votre famille ont été déportés ? Et si oui, avez-vous gardé des souvenirs d'eux ?
Alors, des membres de ma famille, oui, bien sûr, mon propre père a été déporté. Donc, tous les souvenirs que j'ai de mon père, c'est des souvenirs que j'avais avant 11 ans. C'est tout. Hein. Voilà. Et puis, bon, dans la famille, mais un petit peu plus lointaine, proche, là, dans la famille, non, ma mère n'a pas été déportée. Mes sœurs et frères, non. J'ai eu un oncle qui a été déporté, et puis, non, une tante, je veux dire, une tante qui a été déportée. Mais la famille a été assez épargnée plutôt. Il n'y a que mon père qui a été déporté. Alors, mon père a fait plusieurs camps pour atterrir finalement à Drancy. Ça vous parle ? Non. Et à Drancy, ben évidemment, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des courriers. Donc, on envoyait des cartes qui étaient déjà toutes préparées, d'ailleurs. Hein. Il n'y avait plus qu'à remplir les interstices. Et maman en a reçu, je crois, 2 ou 3. Donc, elle a gardé très, très soigneusement comme des reliques, puisque papa était parti, avait été déporté. Donc, c'était les derniers souvenirs de mon père. Mais malheureusement, quand, après l'épisode de Clermont-Ferrand, on s'est retrouvés dans un petit village à Souillac, on s'est retrouvés dans un hôtel, parce que bon, je pense que maman n'avait pas envie d'être dans un appartement, parce que s'il se passait quelque chose, c'était difficile de partir. Donc, elle était mieux à l'hôtel, pour s'en aller rapidement. Donc, dans cet hôtel, au mois de mai, juin, quand il y a eu le débarquement, au mois de juin, quand il y a eu le débarquement en Normandie, les Allemands qui étaient dans le sud de la France sont remontés vers le nord pour aller se battre en Normandie. Et alors, ils se précipitaient, puis comme il y avait beaucoup de résistants qui faisaient sauter les lignes de chemin de fer, c'était épouvantable, puis ils faisaient des trajets incroyables, ils prenaient même des bicyclettes pour monter en Normandie. Et ils sont arrivés à Souillac. C'était la Das Reich, celle qui est passée en radeau sur Glane. Ils habitaient dans l'hôtel. Il y en avait certains qui habitaient dans l'hôtel où nous étions, nous. Et en particulier dans la chambre à côté. Et ce que je n'ai pas raconté, c'est que moi, j'avais 11 ans, hein, j'étais une petite fille, et je parlais comme on parle chez soi. Mon père avait vécu longtemps à Tahiti. Donc, il émaillait souvent sa conversation de mots tahitiens. Et puis, comme on était juifs, on avait aussi un petit peu de vocabulaire juif. Un peu yiddish, comme on dit, le yiddish. Et moi, je ne savais pas, quand je parlais français, si ce que je disais était ou yiddish ou tahitien. Et il m'arrivait, tout d'un coup, de dire, « Oh, ben, ceci, puis c'était une expression juive ou une expression tahitienne. » Et un jour, il y avait des Allemands à côté dans la chambre, tout d'un coup, je dis un mot yiddish. Maman est devenue pâle comme une... Les Allemands étaient à côté, elle dit, s'ils entendent, le yiddish, ça ressemble beaucoup à l'allemand, et les Allemands reconnaissent le yiddish. On est resté là, maman m'a paralysée, j'étais aussi paralysée, puis rien ne s'est passé. Voilà. En revanche, il y avait les Allemands à côté, et donc maman avait peur qu'ils viennent perquisitionner chez nous, comme ils pouvaient le faire n'importe où. Donc les cartes de papa, elle les a déchirées. Parce que s'ils avaient vu une carte qui venait de Drancy, ça nous aurait dénoncé, nous, comme étant des petites filles juives et une maman juive aussi. Donc on n'a aucun souvenir de ces cartes. Voilà.
Comment avez-vous vécu cette période? Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui se passait?
Ben oui, bien sûr, je me rendais compte. Enfin, j'étais une petite fille quand même. Hein. Une petite fille où je jouais à la corde, je sautais à la corde, je jouais à la marelle, je jouais comme toutes les petites filles à l'époque, je jouais beaucoup. Mais on faisait toujours attention, tu vois, on ne parlait pas, on faisait comme si on n'était pas juive, et donc on essayait de vivre normalement. Voilà. On vivait quand même normalement, apparemment, voilà. En faisant attention, mais moi je ne savais pas, c'est pour ça que j'ai dit des mots yiddish comme ça.
Spontanément.
Ah ben oui, spontanément. Comme quoi, on peut dire des bêtises, hein. On peut se trahir sans le savoir.
Est-ce que vous avez déjà eu affaire à l'armée allemande ou à la milice française dans un cadre de contrôle?
Au début de la guerre, quand il y a eu l'occupation allemande, les Allemands avaient... Enfin, moi, j'étais en quelle année? C'était en 40, donc les Allemands étaient déjà en France. Moi, j'habitais à côté de Paris. Et j'habitais à Sceaux, où il y avait un très beau lycée qui venait de se construire, qui était magnifique. C'était un beau lycée de jeunes filles. Parce qu'à l'époque, les lycées de jeunes filles étaient très, très rares. Il y en avait un à Paris. Il y avait un lycée de jeunes filles à Paris. Et donc, quand on a construit ce lycée à Sceaux, la ville de Sceaux, mes parents et moi, on est allés s'installer à Sceaux. Et je me souviens... Alors, à Sceaux, le lycée Marie Curie avait été occupé par les Allemands. C'était la commandanture. La commandanture, c'était l'organisme... comment on expliquerait, c'était...
Le commandement.
Le commandement, c'est ça. Donc, Il y avait donc une armée qui était tout à côté, et à Sceaux, eh ben, on côtoyait souvent des défilés allemands. Voilà. Alors, ça, c'est la première fois, c'est là que j'ai rencontré les Allemands. Et je me souviens que maman, le 14 juillet, m'avait fait endosser une robe qui était bleu-blanc-rouge. C'était que des rayures bleu-blanc-rouge. Et donc, c'était le drapeau français. Elle voulait fêter le 14 juillet, malgré les Allemands. Et mes sœurs et moi, on était en bleu-blanc-rouge avec le drapeau. C'était une petite résistance, quand même, à notre façon. Mais effectivement, à cette époque-là, il y a deux personnes qui ont sonné à la porte. Alors, je ne sais pas qui c'était. Et ils venaient perquisitionner chez nous, dans notre maison, pour voir. Ils recherchaient si on avait le fameux livre que Hitler avait écrit, qui est le livre, vous connaissez le livre que Hitler a écrit ? Mein Kampf. Mein Kampf, oui. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'était un livre qui était interdit en France. On n'avait pas le droit de le posséder. Parce qu'il y avait tous les projets d'Hitler dedans, hein, qu'il a effectué d'ailleurs. Et donc, ben non, nous, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Alors, ils sont venus, ils ont perquisitionné partout dans la maison, et puis ils sont repartis. Alors, à ce moment-là, mon père a commencé à avoir peur, et il se dit, oh là là, je ne suis pas tranquille. Et il s'est dit, je vais m'en aller en zone libre. Voilà. Et ça a été un épisode de notre vie pendant la guerre.
Donc vous avez franchi la ligne de démarcation.
Alors, mon père a franchi la ligne de démarcation en Faude, à Langon, près de Vierzon. Ça s'est passé, je dirais... Il ne nous a pas dit que c'était tellement difficile. Bon, ça ne va pas être facile, mais enfin bon. Il a traversé une rue, et puis je ne sais pas comment il a fait pour traverser le Cher, j'en sais rien. En revanche, ma mère, après, elle a voulu... Alors, nous, on est partis aussi, parce que les enfants avaient le droit d'aller en vacances en zone libre. Mais attendez, il fallait jurer sur l'honneur qu'on reviendrait. Maman me dit, bon, ben, c'est pas possible, faut pas jurer sur l'honneur, parce que moi, je vous envoie en zone libre, et c'est pour que vous y restiez, près de votre père. Oh, c'est pas possible, comment on va faire? Et alors, elle pose la question à un oncle qui était avocat, et qui lui dit, oh, écoute, tu vas jurer n'importe quoi à des boches? Tu peux jurer sur l'honneur n'importe quoi? C'est des poches, ils n'ont pas de parole, eux. Alors maman a dit, bon, d'accord. Alors elle a signé sur l'honneur qu'on reviendrait, et puis on n'est pas revenu. Voilà, on est resté là-bas. Mais alors maman, toute seule, on était dans une grande maison, elle était toute seule, papa était parti. Elle dit, je ne peux pas rester quand même, il faut que j'aille les rejoindre. Donc elle se dit, bon, comment je vais faire? Alors elle en parle à un voisin, qui dit, oh ben ça tombe bien. Moi j'ai ma mère qui est... mourante, non, c'était sa grand-mère, je crois, qui était mourante dans le sud, du côté d'Argelès. Et pour passer la frontière, cette fameuse zone, pour aller en zone libre, il fallait un Ausweis, c'est-à-dire un permis, une autorisation de sortie délivrée par les Allemands. Évidemment, ils ne vous la donnaient pas comme ça tout de suite, ils vous la donnaient peut-être 15 jours après. Ce monsieur Bricot, il me dit, mais c'est pas possible, moi, je ne peux pas attendre 15 jours, on va passer en fraude. Ma maman dit, je vais partir avec vous. Voilà. Alors, elle, tout ce qui était précieux dans la maison, en particulier les photos, elle les a données à Madame Briqueux. Et puis, elle est partie, elle a pris le train, jusqu'à Vierzon. Et là, ils ont rencontré une dame qui avait envie aussi de passer la ligne de démarcation en fraude. Enfin, ils ont trouvé un passeur, je ne sais pas comment. Ça se paye, hein. Un passeur, ça se paye. Il a dit, mais vous, ne vous inquiétez pas, on se donne rendez-vous à telle heure, et puis on prendra une barque, je vous emmène. Alors bon, ils s'en vont. Alors, ils arrivent, ils montent dans la barque, ils embarquent, et puis après, ils arrivent dans la prairie, quoi, qui est à côté. Puis le passeur, il s'en va. Mais ce que n'avait pas remarqué tout de suite M. Briqueux, maman et leur nouvel ami, c'était qu'ils les avaient débarqués dans une île. Il y avait le bras du Cher qui était là encore, devant eux, à traverser. Alors c'était l'été, heureusement. Et il y avait les ponts à côté, avec les Allemands, qui faisaient justement, parce que c'était la frontière, ils étaient là, avec leurs chiens. Et maman me disait, on s'est tapis dans les herbes, en attendant de pouvoir trouver un moment où les Allemands tournaient le dos, pour pouvoir traverser. Maman savait nager, mais la dame ne savait pas nager. Le monsieur savait nager, heureusement. Alors, il l'a prise dans ses bras, comme ça. Puis, il a nagé. Maman, elle avait son petit ballot, tout ça. Et tout ça, ça s'est détrempé. Elle avait son passeport. Oui, c'était son passeport, hein. Qui était, évidemment, quand il est arrivé de l'autre côté, tout était effacé, passeport. Pour l'autre rive, là où vous voulez aller, il y avait des jeunes gens qui étaient en train de pêcher. Et ils se sont dit, tiens, voilà des personnes qui traversent, évidemment, en fraude. Mais attention, le cher, il est dangereux, ce cher, parce qu'il y a des tourbillons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les tourbillons dans les rivières. Mais les tourbillons, c'est une espèce d'eau qui s'enroule comme ça et qui vous entraîne. Même si vous êtes un bon nageur, vous êtes entraîné au fond et vous vous noyez. Alors donc, ces jeunes gens, ils se sont mis à chanter et ils leur disaient, en chantant, au lieu de donner les paroles de la chanson, ils disaient, passez à gauche, passez à droite, faites ceci, faites cela. Vous voyez, ils les prévenaient. Et donc, maman et ses amis ont pu débarquer comme ça, trempés, le manteau lourd d'eau. Ils les ont amenés dans leur ferme, et puis là, bon, ils se sont fait sécher, et puis le lendemain matin, ils sont repartis. Et comme je dis, on voit là l'exemple du passeur qui a touché de l'argent et qui trahit, hein, qui fait une mauvaise action, et puis ces jeunes gens qui vous ont recueilli, la famille qui vous a recueilli, et ça c'est la bonne action, voilà, il y a toujours le bien et le mal. Et maman nous a rejointes. Elle n'a pas été très bien accueillie par mon père, je me souviens. Mais la maison, alors, la maison va être vide. Ben oui, la maison va être vide, voilà. Mais la maison a été occupée par les Allemands, donc elle a été très bien entretenue. On a eu cette chance inouïe d'avoir un Allemand qui était très soigneux. Il avait mis un paillasson dans le jardin, parce qu'on avait un jardin, là, il avait un paillasson devant le jardin. Quand on est revenu, on disait, ah, il s'essuie les pieds. Pour rentrer dans le jardin, on disait. Il fallait bien rire un petit peu. Quand on a revu maman, eh ben, ses cheveux, elle avait des cheveux magnifiques, tout noirs, comme toi, là. Ils étaient tout blancs. Elle avait blanchi en une nuit, tellement elle avait eu peur.
Est-ce que Marc Guillaume a caché d'autres personnes avec vous? Et si oui, avez-vous gardé des contacts avec ces personnes?
C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, non, elle n'a gardé personne en même temps que nous. Mais je sais qu'après, elle a gardé deux autres petites filles que je n'ai jamais connues, que je n'ai jamais vues. Je crois qu'on a appris leur nom récemment.
Oui, hein? Jacqueline...
Jacqueline, je ne sais plus comment.
Je ne sais plus.
Franca. Mais personne n'en a eu de nouvelles. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, ces petites filles. Voilà. Elle les avait gardées. Marthe les avait gardées pendant au moins un an et demi ou deux ans. Elle s'était beaucoup attachée à elles. Pas à nous, parce que nous, on est resté 15 jours, alors elle n'a pas eu le temps de s'attacher à nous. Mais elle s'était très attachée à ses deux petites filles. Et après la guerre, ces deux petites filles ont été reprises par la Croix-Rouge. Et elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Et alors, elle en était attristée. Elle en parlait encore à la fin de sa vie. Elle avait la larme aux yeux. Elle se demandait si elle avait bien fait de les laisser à la Croix-Rouge, si elle n'aurait pas mieux fait de les garder. Enfin, vraiment, pour elle, ça a été très dur pour elle.
Elles avaient quel âge quand elle les a...
Elles étaient petites, hein, elles avaient moins de 10 ans. Donc c'était des petites filles qui peut-être ne connaissaient même pas le nom du bourg où elles étaient, qui n'ont pas pu d'elles-mêmes. Puis quand on est enfant, on pense pas à écrire à la personne qui vous a recueilli. Et moi, je regrettais de ne pas lui avoir fait donner la médaille du temps de son vivant. Hein.
Êtes-vous déjà revenu à la Tour d'Auvergne après la guerre et avant aujourd'hui?
Non. Non, c'est non, catégorique. Un non catégorique. J'aime pas tellement revenir sur les lieux de souvenirs. J'aimais pas trop revenir sur les lieux de souvenirs. Parce que je me dis toujours, oh, je vais pas reconnaître, ça va avoir changé. Mais enfin là, je peux dire que je n'avais aucun souvenir de la ville en elle-même. Aucun souvenir.
Avez-vous pu rapidement reprendre une vie normale après la libération et êtes-vous retourné là où vous viviez avant?
Alors, après la guerre, oui, on a repris une vie normale, apparemment. Je dis apparemment parce que, bon, j'avais des bonnes petites copines, j'allais au lycée, tout ça, j'ai mené une vie normale. Mais en moi, je me demandais toujours ce qu'était devenu mon père. Donc, intérieurement, j'étais pas tranquille, voilà. Oui. Je suis revenue quand même, mais tout à fait par hasard, pas volontairement, dans des voyages où j'étais déjà repassée dans des endroits où j'avais vécu. Voilà. J'ai fait pas mal de lieux différents. Hein. Alors en particulier à Rivabella, qui est une plage où on était juste à la déclaration de la guerre, dans le Calvados, en Normandie. Et j'y suis allée avec une cousine qui habite là-bas. Et j'ai dit, oh ben, tiens, on va aller à Rivabella, je vais peut-être retrouver la petite maison, ça s'appelait le Petit Nid, on va peut-être la retrouver, la petite maison. Alors Rivabella, c'était une plage de débarquement, pratiquement, il n'y avait plus rien, mais alors plus rien du tout, plus rien. Tout avait été démoli. Par contre, la ville avait été reconstruite avec des petites villas, tout ça, avec les mêmes, le même tracé des routes, on voyait que rien n'avait changé, mais tout avait été détruit, hein. Tout,
voilà. Avez-vous gardé des séquelles de cette période ?
Je dirais des séquelles psychologiques, hein, traumatiques. Mais parce que, bon, on est marqué par ça. Hein. Surtout marqué par la déportation de son père, surtout quand on ne sait pas ce qu'il est devenu, parce que je suis resté des années sans savoir ce qu'il était devenu. Donc là, c'est dur, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà.
Avez-vous conservé des photos de cette période ?
Ah oui. Tu les as ? Ben, tu vas le montrer. Moi, je veux bien que vous les passiez. Alors, vous allez voir là, cette photo. Je vais vous les passer, hein, parce que si elles sont abîmées, ça n'est pas grave. En haut, c'est ma famille, tout en haut. C'est ma famille, avant la guerre. D'accord ? Au milieu, c'est ma famille pendant la guerre. À Souillac, mon père avait été déporté déjà. Ça, c'était quand j'étais à Saint-Gaultier. C'est juste avant la déportation de mon père. Alors, je vous présente la photo de mon père. Ça, c'est papa. Alors, là, c'est papa à Marseille, quand il essayait de trouver un bateau pour partir et qu'il n'a pas trouvé. Et donc, il n'a pas pu partir.
C'est quoi le prénom de papa ?
Rodolphe. Alors ça, c'est une carte d'identité scolaire. Quand j'étais au lycée, pendant la période de la guerre. Alors ça, c'est quand j'étais au sixième.
À la pension.
Alors j'étais à la pension. C'est l'année où je suis venue ici. Voilà. Alors les tickets. Alors les tickets, là, quoi. Je vois que vous les tickets. Alors on avait des tickets, on pouvait soit faire une croix sur le ticket, soit le détacher. Et avec ça, on avait droit à quelque chose. Alors on avait droit, par exemple, à 100 grammes de sucre. On avait droit à. Alors il y avait pendant la guerre, il y avait les J2, J1, les J2, les J3. Alors c'était des cartes différentes et on avait droit à des quantités différentes. Par exemple, le lait. Les J2 avaient droit à beaucoup plus de lait que les J3. Mais d'ailleurs, si je crois bien me souvenir, les J3 n'avaient même pas droit à du lait.
Ça correspond à quoi, J2 et J3 ?
Alors, J3, ça devait commencer à 14 ans.
D'accord, c'était en fonction de l'âge.
C'était en fonction de l'âge, voilà. Moi, j'étais J2, et puis les autres, les enfants étaient J1, et puis après, il y avait les nourrissons, les bébés. Et à la pension, moi, j'avais droit à du lait, mais pas mes sœurs. Elles avaient droit à de la soupe le matin, parce qu'elles étaient J3. Et alors on avait droit à 90 grammes de viande par jour, par semaine. 90 grammes, vous voyez ce que ça fait, 90 grammes ? C'est à peu près un morceau de viande qu'on met dans votre assiette quand vous déjeunez. Alors on avait droit à ça pendant une semaine. Alors on avait droit aussi à une plaque de chocolat par mois.
Et le rationnement, il n'a pas été trop dur pour vous ?
Alors... Ben comme tout. Alors, ben si, c'était à la pension en particulier, on mangeait mal. On mangeait beaucoup des légumes qui reviennent à la mode, mais qui font mal au ventre. Hein. Si bien que moi, j'avais toujours mal au ventre. J'étais toujours malade.
Topinambours, des choses comme ça.
Voilà. Alors, on mangeait des topinambours et des rutabagas. Alors, les topinambours, c'était très bon. Parce que ça avait un petit goût d'artichaut. Et ça, j'aimais bien, mais ça me faisait mal au ventre. Les rutabagas, c'était immangeable. Ben, moi, je trouvais ça immangeable. Hein. Et alors, on nous donnait de la viande de temps en temps, mais alors un jour, on m'avait mis dans mon assiette une espèce de rondelle toute blanche, étrouée. Je me demandais ce que c'était. Alors je me dis, mais c'est de la narine de veau, ça. et je l'avais jetée sous la table parce que je ne voulais pas la manger. Et pourtant, c'était peut-être le seul morceau de viande qu'on aurait eu de la semaine. Hein. Voilà. Alors, il y avait à la pension, le seul repas qui était bon, c'était le dimanche soir, parce qu'on n'était que quelques pensionnaires qui n'étaient pas partis chez les parents. Ils n'étaient pas rentrés chez leurs parents. Et là, évidemment, on en profitait et on avait droit à une salade de pommes de terre. Alors ça, c'était la fête, hein. La salade de pommes de terre. On était gâtés.
Comment vous aviez les tickets ?
On allait à la mairie et la mairie vous distribuait pour le mois les tickets. Alors on avait des tickets pour le lait, on avait des tickets pour la viande, on avait des tickets pour les chaussures. On avait dit, alors, pour les chaussures et les vêtements, c'était des tickets qui duraient peut-être 6 mois. Et puis pour le lait, c'était renouvelé tous les mois. Alors il y avait le sucre, tout. Il n'y a que les légumes qui n'étaient pas sous ticket, tu vois. Mais tout le restant, même les vêtements, tout ça, c'était avec ticket. Alors, il y avait les tickets travailleurs aussi. Ceux quand même qui travaillaient dans les champs, qui travaillaient dans les mines, ils avaient droit à plus de vin, ils avaient droit. Il y avait des tickets pour les cigarettes aussi. Alors nous, on fumait pas et on ne buvait pas. Alors on faisait des échanges. Voilà, on mangeait pas beaucoup de pain non plus. On faisait des échanges. Alors je te donne mes tickets de pain et tu me donnes des tickets de beurre. Tu vois, on faisait des échanges comme ça.
Qu'avez-vous ressenti lorsque la guerre s'est terminée ?
Ah, je vais te dire. Il y a d'abord eu un épisode avant la fin de la guerre, qui a pour moi été peut-être plus marquant.
Le débarquement ?
Exactement. T'as trouvé. Le jour du débarquement, alors ça, je m'en souviens. Comme je suis plus... Il y a des souvenirs comme ça qui vous marquent. Hein. La déclaration de guerre, ça, je m'en souviens, parce que je mangeais de la guimauve à Rivabella. Et ça, pour moi, ça a été un coup de foudre, parce que j'imaginais la guerre épouvantable. Donc, j'étais très, très, très touchée. Et là, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'étais sur le trottoir et je jouais à la balle au mur. Je ne sais pas si ça se joue encore aujourd'hui. On a une balle, on joue, on fait des tas de mouvements, on fait des tas d'acrobaties pour attraper la balle. On appelle ça la balle au mur. Et alors, quand j'ai appris, pour moi, c'était la fin de la guerre. Voilà. C'était le début de la fin de la guerre. Ça a vraiment été la sensation de la libération allait arriver. Voilà. Donc, tu as bien trouvé. Et puis alors, la fin de la guerre, bien sûr, ça a été... on était déjà retournés à Paris, nous, et on est allé voir les défilés à Paris. Enfin bon, ça a été la grande joie, évidemment. Mais je dirais que le jour vraiment où j'étais le plus marqué, c'est le 6 juin.
Quelle relation avez-vous entretenue avec Marc Guillaume après la guerre ?
Ben, malheureusement, aucun. Voilà. Alors je dis aucun, mais je ne sais pas si maman ne lui écrivait pas pour lui envoyer ses bons voeux, par exemple, à Noël. Ça, c'est possible qu'elle l'ait fait, sans que nous on le sache. Voilà, ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu de nouveau de contact avec Marc. Je me suis posé la question, vous voyez, parce que moi, quand je suis venue à Clermont-Ferrand pour faire les démarches, et que j'ai rencontré la supérieure qui s'occupe maintenant, enfin qui s'occupait à l'époque du couvent où j'étais, j'avais gardé des relations avec elle, vous voyez. Donc on s'écrivait avec cette dame, qui maintenant est décédée. Hein.
Avez-vous tenu un journal pendant ou après la guerre ?
Eh ben non, et puis je suis bien triste, j'aurais dû. Alors, si je peux vous donner un conseil, les enfants, c'est de tenir un journal. Voilà. Un événement un petit peu anormal, hop, faut le marquer. Parce qu'après, on ne s'en souvient pas. Alors, moi, je n'ai pas de mémoire, en plus. Alors, il y a un tas de choses dont je ne me souviens pas. Alors, j'avais une sœur qui avait plus de mémoire, qui m'a remémoré quelque chose, mais moi, je n'avais pas beaucoup de mémoire. Mais c'est vrai, essayez de marquer les choses, parce que vous serez content plus tard de dire « Ah oui, tiens, j'ai fait cette chose-là ». C'est vraiment intéressant, hein, ça.
Comment vous avez su que Marthe Guillaume était morte ?
Ah ! Eh bien, c'est quand j'ai commencé à faire les recherches pour lui donner la médaille, tu vois. Et là, j'ai appris qu'elle était déjà décédée. C'était trop tard pour moi. J'ai appris à ce moment-là. Oui. Donc je l'ai appris en... Quand est-ce que j'ai fait les démarches? En
93.
Pouvez-vous porter l'étoile juive?
Alors, l'étoile juive se portait en zone occupée, c'est-à-dire dans la zone nord, enfin la zone nord et puis la zone sud, tout le long de l'Atlantique, hein, forcément, c'était la zone occupée. Voilà. Mais en zone libre, on ne l'a jamais portée. Donc moi, j'étais en zone libre, je n'ai jamais porté l'étoile jaune. Voilà.
Même après que les Allemands aient franchi la ligne de démarcation?
Exactement.
Quel âge avait Marthe Guillaume quand elle vous a recueilli?
Elle avait une quarantaine d'années, mais pas plus, hein. Elle devait avoir peut-être 39-40 ans. Elle avait peur de rien, cette femme, tu vois. Parce que pour cacher des petites juives, ou des résistants, parce qu'elle n'a pas caché que des petites juives, hein, elle a caché aussi des résistants, des gens qui se cachaient, et elle avait peur de rien. C'est une femme solide, hein, carrée.
Comment fait-on pour revenir à une vie normale après la guerre?
On est bien obligé de revenir à une vie normale. Hein. Alors je vais te dire quand même, la vie normale, elle n'est pas revenue tout de suite. Au point de vue alimentation, au point de vue vêtements, au point de vue restrictions, on avait encore beaucoup de choses à rattraper. Alors on était plus tranquille, évidemment on était tranquille, mais je me souviens par exemple que j'avais une veste, ben, quand elle s'était usée, que tout était abîmé, la couturière me l'avait retournée. On avait mis l'envers sur l'endroit, et puis je l'ai porté pendant encore 4 ou 5 ans. Donc on peut dire que pendant 4 ou 5 ans, on a encore eu des restrictions. Parce que tout avait été cassé en France. Les ponts, tout avait été abîmé, tout ça. Il fallait tout reconstruire, hein. Tout remettre en route. Les Allemands, ils avaient tout emporté. Non seulement ils avaient emporté tout ce qui se mangeait, hein, mais ils avaient emporté aussi tous les tableaux, toutes les richesses, toutes les richesses françaises, le charbon, les pommes de terre, tout ça qu'on mangeait des topinambours et des rutabaga, parce qu'ils envoyaient les pommes de terre en Allemagne, ils envoyaient tout en Allemagne. Hein.
Pourquoi les Juifs ne pouvaient pas aller au parc?
Bon, ils n'étaient pas seulement au parc, et qu'ils n'avaient pas le droit d'aller. Hein. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les cinémas, ils n'avaient pas le droit de faire leurs courses. Alors ça, c'était méchant. Hein. Ils n'avaient pas le droit de faire leurs courses avant 5 heures le soir, par exemple. C'est-à-dire quand toutes les boutiques avaient été vidées, d'abord, par les gens qui faisaient la queue. Les Juifs allaient dans les magasins, ben non, il n'y avait plus rien. Voilà. Alors, il y avait une astuce, hein, c'est qu'on donnait nos tickets à une amie qui n'était pas juive, puis qui faisait les courses pour nous, par exemple. Enfin, tout le monde n'avait pas des amis. Alors, pourquoi on n'avait pas le droit d'aller? Alors, donc, on avait des tas d'interdictions, hein. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller dans les parcs et les grandes personnes n'avaient pas le droit de faire de travailler. Ils ne pouvaient plus être professeurs, ils ne pouvaient plus être avocats, ils ne pouvaient plus être médecins, ils ne pouvaient plus tenir une boutique, ils n'avaient le droit de rien faire. Voilà. Ils n'avaient le droit de rien faire. Et pourquoi? Parce que les Allemands les brimaient, les Allemands n'aimaient pas les Juifs, c'est pour ça. Alors après, qu'est-ce qu'on voyait? Les Juifs, ils n'avaient rien à faire. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils se réunissaient. Ils bavardaient ensemble, des fois ils allaient jouer aux cartes dans quelque part, et les gens passaient, ils disaient « Oh là là, oh ces gens-là, ils n'ont rien à faire, regardez-les », et puis ils dénigraient. Mais ils avaient le droit de rien faire, de toute façon. Donc ce n'était pas de leur faute, hein, s'ils se réunissaient pour parler. On ne leur avait pas interdit de parler quand même, hein, déjà.
Merci. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez dire, sur lesquelles on ne vous a pas posé de questions?
Ça, c'était pendant la guerre, et j'étais donc chez l'oncle Léon à Saint-Gauthier, puisqu'on avait eu l'autorisation de passer. Et c'était l'été, au mois de juin, il faisait beau, on était dans le jardin, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Arriver plein d'avions, plein, mais très très haut, plein d'avions. Et à l'époque, les avions... Oh, C'était rare. On sortait pour voir les avions. Hein. Moi, je me souviens quand on était à Sceaux où on habitait, on entendait un bruit d'avion peut-être une fois tous les mois. On sortait pour aller les voir parce que c'était quelque chose de très rare. Donc on était tous là et regardait. Puis tout d'un coup, on a vu se détacher des petites boules noires comme des olives. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout de suite, alors je ne sais pas qui c'est qui a dit, oh, c'est des bombes. Alors on s'est tous mis le plus possible, on s'est cachés, enfin, on s'est recroquevillés, effectivement, c'était des bombes. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était des aviateurs italiens, j'ai toujours dit que c'était des aviateurs italiens qui étaient venus nous bombarder. Et puis, il y a peut-être 2 ans, je lis un livre qui dit, oui, on croit toujours que ce sont des Italiens, mais ce n'étaient pas des Italiens. Ils ne sont jamais venus aussi loin. Ils sont toujours restés en Provence. Ils n'ont jamais été aussi loin. Donc, c'était des Allemands. Donc, on a été bombardés par des Allemands. Voilà. Qui ont raté leur cible. Ils étaient tellement hauts qu'ils ont raté les ponts qui passaient sur la Creuse, là, sur le fleuve, la petite rivière qui passait là. Et donc, ils ont raté les ponts, mais ils n'ont pas raté une petite jeune fille qui a une jambe abîmée. Voilà. Mais sinon... Alors, je vais vous parler d'autres bombardements. Là, j'étais à Sainte-Marguerite, dans la pension où j'étais cachée avec mes sœurs à Clermont-Ferrand. Et on était tout près des usines Michelin. Michelin, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Les pneus, hein ? Les pneus Michelin. Donc, c'était une usine qui était visée par les Anglais et les Américains. Donc, ils étaient bombardés. Et quand les bombardements arrivaient, au lieu de nous faire descendre dans une cave qui peut-être n'existait pas, hein, on nous mettait sous le préau, là, en ligne. On était une 60aine de pensionnaires. Et puis, on priait, puisqu'on était dans une pension religieuse. Donc, on priait. Et chaque fois qu'il y avait une bombe qui tombait, la religieuse disait « Merci, mon Dieu !» Et nous, ça nous faisait rire, parce qu'on disait « Oui, bien sûr, nous, on est épargnés, mais les bombes, elles sont tombées sur d'autres. Hein. » Enfin, nous, on était gamines, on sait nous rire.
Est-ce qu'après la guerre, vous avez continué vos études ?
J'ai continué mes études. Je suis arrivée, j'étais en quatrième. J'ai fait toutes mes études. Après, j'ai fait des études supérieures pour être professeur d'italien.
Est-ce que même après la guerre, aujourd'hui, vous avez encore des réflexes de la guerre, comme par exemple retourner la veste pour éviter de...
Je ne retourne plus ma veste, non. Mais c'est vrai que j'ai... J'en parlais encore. Je fais des économies de papier, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de papier. Hein. Alors, on écrivait dans les marges, on écrivait partout, de tous les côtés, sur les feuilles. Et moi, comme je dis maintenant, je suis incapable de jeter un prospectus ou un papier qu'on me donne. Si l'autre côté est vierge, s'il n'est pas écrit, je le garde, parce que je vais y faire des petites notes ou des... Je suis incapable de jeter, donc je suis très... Ça, j'ai des réflexes que j'ai gardés de la guerre, ça c'est sûr.
Et la nourriture aussi.
La nourriture
plein de
aussi,
petits restes, dans des petites boîtes.
Je ne jette rien. Je mets au réfrigérateur ou je congèle, mais je ne jette rien. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a permis de tenir dans cette période difficile ?
Bah, vous savez, tu sais, quand on est un enfant, même quand on est un adulte, hein, on est bien obligé. Le contexte est là, mais il faut vivre quand même. Donc on vit quand même, il n'y a aucun problème, on vit. Il ne faut pas se poser la question. Hein. Quand il y a quelque chose de difficile qui vous arrive, on est toujours capable de le surmonter. Toujours. La preuve. Hein. Donc il ne faut pas se laisser décourager. Il faut toujours aller de l'avant, toujours chercher à se protéger, à faire ce qu'il faut pour s'en sortir. D'ailleurs, c'est un instinct. C'est un instinct. Si tu tombes dans l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu sais pas nager, tu vas te débattre. Et se débattre, ben c'est ça. Hein, c'est essayer on essaye toujours de s'en sortir.
Voilà. Merci madame d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir partagé votre histoire.
Oui.
Donc merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir posé les bonnes questions. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé.
Non, sûrement pas. Un grand merci.